cerveau et s'agite à l'envie pour nous défaire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors, alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
C'est toujours Radio Libertaire 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence avec aujourd'hui, dans cette émission, des histoires de naissance. Naissance du savoir avec Nicolas Martin, qui nous propose donc un ouvrage qui est paru aux éditions Les Arènes et qui s'appelle La naissance du savoir dans la tête des grands scientifiques. Et c'est absolument passionnant. Et puis, nous retrouvons ensuite Marie Richeux pour Jour de naissance, un récit qui est paru chez Sabine Bespisère, où là, il est effectivement question d'une vraie naissance d'un vrai enfant. Voilà pour le programme de ce jour. On commence tout de suite par Nicolas Martin, La naissance du savoir dans la tête des grands scientifiques aux éditions Les Arènes. Et c'est un plaisir de retrouver Nicolas Martin. C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, l'émission Idéaux et débats, avec le plaisir de retrouver en vrai cette fois et sans camion qui bouche la rue,
c'est
Nicolas Martin, pour un livre qui est paru aux éditions Les Arènes et qui s'appelle La naissance du savoir dans la tête des grands scientifiques. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin parce que bon, ça fait partie des questions que je me pose sans arrêt, de savoir comment ça marche là-dedans, comment s'organise la pensée, mais j'aimerais savoir comment toi tu as fait ce chemin-là de déjà te poser les questions, expliquer un petit peu à nos auditeurs et tes futurs lecteurs comment est né ce livre à partir de ton expérience et puis peut-être aussi de ta frustration d'une certaine manière.
Tout à fait. Mais en fait ce livre, je l'avais en tête depuis longtemps, c'est-à-dire que en 6 ans de méthode scientifique, j'ai fait un calcul au doigt mouillé, je dois avoir reçu entre 2000 et 2500 chercheuses et chercheurs, donc c'est beaucoup de gens. Et au fur et à mesure et au fil de mes conversations, vraiment c'est une question que j'avais envie d'approfondir d'une manière ou d'une autre. C'est que je me disais, mais vraiment, comment ça marche en fait un cerveau de scientifique? Et en fait, vraiment surtout, est-ce que c'est différent du mien? Et en fait, la question sous-jacente et assez personnelle et assez intime, c'est de me dire, mais en fait...
Pourquoi pas moi?
C'est-à-dire, pourquoi je suis pas à cette place-là? Parce que en fait, quand on regarde mon parcours scolaire, mon enfance et mon adolescence, globalement, je pourrais cocher à peu près toutes les cases. C'est-à-dire que j'étais bon élève, j'avais une passion farouche pour l'espace très jeune, parce que j'avais la chance d'avoir un papa qui travaillait chez Hachette Livre et qui me ramenait des bouquins de vulgarisation. Alors il me ramenait, j'en ai encore gardé beaucoup, hein, j'avais plein de bouquins sur la mythologie, et j'avais notamment un livre qui m'a ramené assez tôt sur le système solaire, hein, à l'époque où Pluton était encore une planète. Ça remonte un peu. Et j'adorais ce bouquin. Et donc voilà, et donc j'aimais vraiment ça, j'étais plutôt bon dans les matières scientifiques. Et puis à un moment donné, il y a eu une bifurcation qui fait que, au lieu de poursuivre des études scientifiques, je suis passé du côté littéraire, puis j'ai fait des études de lettres, et puis je suis devenu prof, et puis ensuite je suis parti à la radio. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai raté? Et puis en fait, vraiment, la question, c'est de me dire, mais est-ce que c'est juste que moi, je suis pas calibré pour faire des sciences? Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui n'appartiendrait qu'aux scientifiques et qui fait que moi, finalement, je suis dans l'âme plutôt un littéraire? En fait, comment est-ce que mon cerveau n'est pas configuré de la bonne façon, si tu veux? Et du coup, voilà. Et donc, du coup, j'avais vraiment cette curiosité d'essayer de comprendre et de fouiller un peu ça et de fouiller cette question. Et puis quand je suis arrivé aux éditions des Arènes et qu'on m'a proposé de développer un peu leur catalogue d'éditions d'ouvrages scientifiques qui soient pas des sciences sociales, c'est le premier ouvrage que j'ai proposé parce que j'avais vraiment ça en tête et j'avais vraiment envie de me dire, mais en fait voilà, si on prenait une vingtaine de grands noms de la science et qu'on essayait de voir à travers un questionnaire comment ça fonctionne et comment ça fonctionne depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire comment on a une vocation, pourquoi est-ce qu'on choisit un sujet plutôt qu'un autre, pourquoi est-ce que dans ce sujet d'un seul coup on va s'intéresser à un thème en particulier qui va devenir l'objet d'études et puis finalement le fil conducteur d'une carrière,
d'une vie
complète,
parce que ça prend tout.
C'est ça. Et puis surtout, et puis derrière ça aussi, comment se structure leur pensée? Comment est-ce qu'ils travaillent? Est-ce que tout ça est fondamentalement différent du commun des mortels, c'est-à-dire de nous autres, êtres humains avec des capacités intellectuelles tout à fait correctes, mais pas forcément brillantes. et voilà. Et donc du coup, c'est comme ça qu'est née la jeunesse de ce livre.
Enfin, t'es quand même un petit peu hybride, parce que certes, tu as une formation littéraire, mais bon, de par l'émission que tu as animée et la manière dont tu l'as animée, t'es un peu plus qu'un candide dans le domaine scientifique.
Alors oui et non, parce que évidemment en 6 ans de méthode scientifique, à force de d'émissions les unes après les autres, etc., évidemment mon matelas de connaissances scientifiques c'est un petit peu épaissi, mais je n'ai jamais été, enfin je suis pas scientifique déjà d'une part, je suis journaliste et d'ailleurs je le dis au début du livre, ça n'est pas un travail sociologique, sociologue, c'est un travail journalistique et c'est un livre d'entretien et curiosité surtout,
curiosité à vouloir assouvir.
Donc voilà, donc d'une, moi je suis pas scientifique à proprement parler, et en fait c'était aussi la volonté de dire que je pense que on a, et moi je me rends compte quand je discute avec les gens et avec des auditrices, des auditeurs ou des gens qui étaient curieux et qui connaissaient l'émission, une image encore relativement ancrée qui est fausse de ces scientifiques inaccessibles qui sont des gens complètement déconnectés du réel, hors sol, qui vivent dans leur laboratoire en circuit fermé, sans aucune préoccupation du quotidien, les professeurs Nimbus, etc. Ouais. Et moi je les ai vus passer dans mon studio, il y en a que j'ai vu plusieurs fois et je voyais bien que ces gens-là étaient des êtres humains et qu'ils avaient des préoccupations d'êtres humains, qu'ils avaient des faiblesses d'êtres humains, enfin bref, qu'ils nous ressemblaient, que c'est pas des extraterrestres, c'est pas une espèce à part, et c'était aussi une façon d'aller et de parler avec eux justement de ça, de leur intériorité, de leur intimité parfois, de l'endroit d'où ils viennent, et c'est intéressant parce qu'il y a quand même un certain nombre d'entre elles et eux qui étaient presque un peu décontenancés par ces questions-là, parce que c'est des questions qu'on leur pose jamais. Alain Aspect, justement, qui m'avait donné son accord 15 jours avant d'avoir le prix Nobel de physique, m'a dit à l'issue de l'entretien, mais Nicolas, vous me renverrez tout ça, vous me ferez relire, parce que vous m'avez emmené moi dans des territoires sur lesquels je suis rarement allé, et donc j'aimerais bien être sûr avant de donner mon accord pour publication de relire tout ce que je vous ai dit. Je lui ai dit Alain, bien entendu, parce que par ailleurs, je n'avais pas attendu Alain Aspect pour proposer à chacune et à chacun de toujours relire les entretiens. Ça a été vraiment quelque chose qu'on fait quasiment jamais quand on est à la radio ou dans les médias. Moi, là, je leur ai dit, je veux vraiment que vous ayez le final cut, que vous vous retrouviez dans ces textes-là, que vous le réécriviez, que vous précisiez, parce que je voulais privilégier l'entretien en direct, sans donner les questions, pour avoir justement un peu de cette spontanéité, mais pour qu'ils puissent, à la marge, rajouter telle ou telle précision.
Close. wanna fucking tear you apart.
Alors, on va parler du questionnaire, Nicolas, la naissance du savoir dans la tête des grands scientifiques, livre paru aux éditions Les Arènes. Mais moi, ce que je peux dire en tant que lectrice, c'est que en lisant ces témoignages et la transcription de ces entretiens, il y en a qui sont particulièrement touchant, quoi. C'est vraiment émouvant. Quoi.
Ah, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire en disant ça. Moi, j'adore ça parce que je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie émotionnelle et de retour dans des souvenirs. Et puis surtout, ce qui est génial, enfin, il y a plein de. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses formidables dans ce bouquin. Pas parce que c'est mon bouquin, mais parce que dans les témoignages que j'ai recueillis, moi, il y a plein de choses qui me redonnent confiance. Déjà, l'idée de se dire que vraiment, c'était en tout cas le cas pour ces générations-là, même si j'interviewe des gens qui vont de la quarantaine jusqu'à à 80 passés, et ben en fait, figurez-vous, auditrice, auditeur, que n'importe qui peut devenir prix Nobel. Et je le crois vraiment. Parce que dans cet ouvrage-là, on a des gens comme Étienne Gys, qui vient d'une famille prolétaire, ou des gens comme Yves Agide ou Laurence de Villers, qui viennent de familles plutôt d'une aristocratie scientifique ou intellectuelle. Pas d'une aristocratie, pas de sang bleu, évidemment, mais en tout cas d'une lignée de gens plutôt privilégiés socialement. Même Alain Aspect vient d'une famille très modeste d'instituteurs, les parents de Carlo Rovelli, qui est un grand physicien, que je tiens pour être peut-être le plus grand physicien contemporain vivant, vient d'un milieu assez modeste. Et donc, on voit bien que, jusqu'à en tout cas il y a un certain temps, est-ce le cas aujourd'hui, ça je ne saurais le dire, mais que les scientifiques n'engendrent pas des scientifiques et qu'on peut devenir scientifique même quand on vient d'un milieu social qui n'est pas un milieu social privilégié. Donc ça déjà je trouve que c'est une très bonne nouvelle. L'autre très bonne nouvelle, c'est que il y a quelque chose d'assez commun à tous ces entretiens, et ça aussi je pense que c'est extrêmement important de le rappeler aujourd'hui, c'est le rôle des enseignants.
Ouais,
et que ce soit en primaire, au collège, au lycée ou parfois à la fac, très souvent, à un moment donné, ce sont des gens qui, sur leur parcours, ont rencontré un ou une prof qui a donné l'envie et qui leur a ouvert une porte. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est essentiel de le rappeler. Quand on voit l'état de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et quand on voit ce que les gouvernements successifs, et notamment le gouvernement actuel, sont en train de faire. En rajoutant des heures, alors à des plannings déjà super chargés, à des classes super chargées, avec des pays misérables, et ben on se rend compte que si on n'a pas des enseignants, et heureusement, il faut leur rendre hommage.
Ils font le boulot
dans des conditions qui sont déplorables, mais que si on n'a pas des enseignants qui sont investis, si on n'a pas des enseignants qui sont les chevilles ouvrières, et ben on n'a pas une éducation nationale et un enseignement fort, et ben derrière on perd des générations de scientifiques. Parce que quand on est débordé dans une classe de 30 ou de 40 élèves, qu'on est au bout de sa vie, qu'on est crevé, et qu'à un moment donné, il y a des élèves qui demandent juste un petit coup de pouce, ou qu'il faut prendre sous son aile, ou à qui il faut donner un peu plus d'envie, parce qu'on voit plus clair et parce qu'on n'a pas le temps ou l'énergie, on passe parfois à côté, j'exagère en disant un prix Nobel, mais en tout cas d'une belle carrière scientifique.
Oui, il y a ce côté-là, Nicolas, et j'allais dire, il y en a un autre aussi qui est très important, c'est sortir du formatage et de dire que tout le monde doit penser de la même façon et s'exprimer de la même façon et avancer à tel rythme de la même façon que les autres. Et on s'aperçoit en lisant les entretiens que tous ont eu des spécificités. Déjà, ils ne rentrent pas dans les cases, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des parcours étonnants. Je pense au parcours de Marc-André Sélos,
que j'adore.
Super, hein. Voilà, j'ai été particulièrement touchée avec ses champignons, son parcours de champignons. Et ses saumons.
Les saumons, c'est Gilles Boeuf.
Mais les champignons, comment justement il vient découvrir ça et qu'il va. C'est vraiment prodigieux.
Il y a deux petites anecdotes qu'on peut donner aux auditrices et aux auditeurs de Radio Libertaire. Le premier, pour boucler sur ce que je disais, c'est Alain Aspect, qui a obtenu le prix Nobel de physique. Il a obtenu le prix Nobel de physique en se souvenant d'une expérience qu'il a faite de son prof de physique au lycée.
Ouais.
C'est une expérience de son prof de physique au lycée qui, à un moment donné, lui donne une idée et résonne au sens propre du terme pour faire son expérience pour démontrer les inégalités de Bell. Et voilà, enfin, déjà ça c'est quelque chose d'extrêmement important, mais on peut parler d'Étienne Gys aussi qui ne cesse de rendre hommage au prof de maths qui lui a donné le, le, le goût des mathématiques.
Oui, ou ça peut être plus tard avec les directeurs de thèse.
Voilà,
aussi.
C'est ça, ça marche à tous les niveaux de l'enseignement. Et mais Marc-André Sellos, ce qui est super, c'est que Marc-André Sellos, donc, est botaniste, mycologue, il a beaucoup travaillé sur les champignons, et c'est une passion qui naît très très jeune, quand il est au collège encore, et il s'inscrit très tôt dans des sociétés de mycologie, où il est que avec des vieux messieurs.
Il fait ses dessins
et il part récolter des champignons pour trouver, pour nommer, pour vraiment avoir, enfin faire déjà un travail de naturaliste, c'est-à-dire trouver des espèces, les reconnaître, les nommer. Et il dit à un moment donné, à 18 ans, je suis tombé sur une petite tranche toute sèche de champignon et j'étais tellement ému que j'en ai pleuré aux larmes. C'est génial, c'est hyper joli. Ouais.
Et ils sont tous comme ça. Certains commencent très tôt à se retrouver dans un chantier de fouilleux aussi. Mmh. Enfin bon, c'est vraiment. Mais on va revenir au questionnaire, parce qu'il il est très très important de dire un petit peu comment tu as procédé, puisque tu as défini ce questionnaire qui comprend trois parties avec quasiment les mêmes questions pour tous, mais que tu adaptes en fonction aussi quand même de ton interlocuteur et des réponses. Donc la préparation du questionnaire, comment, bon, tu cites un peu tes lectures préalables.
Le questionnaire, c'est un assemblage évidemment de plusieurs choses. J'ai commencé à me dire, à faire œuvre de d'ignorance ou d'humilité en me disant, mais mon Dieu, je suis évidemment pas la première personne de l'histoire de l'humanité à me demander comment fonctionne le cerveau scientifique. Et je me suis dit où je vais et comment je vais sourcer ça et comment, à quelle source il faut que je m'abreuve. Et donc, je suis reparti d'Aristote. Donc, j'ai commencé très loin et d'un seul coup, je me suis dit, tu pars là-dedans, mon coco, tu vas jamais t'en sortir. Donc, j'ai quand même un peu glané à droite à gauche et vu en épistémologie comment se pose la question de la naissance du savoir, au sens large du terme. J'ai discuté avec quelques philosophes des sciences aussi pour avoir leur point de vue et pour m'orienter un peu dans cette littérature. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je construise ce questionnaire avec à la fois les interrogations qui sont les miennes et qui sont chevillées à mon corps. Notamment toutes les moi j'avais vraiment beaucoup de questions sur toute la première partie, c'est vraiment la naissance de la vocation, qui étaient des questions que j'avais déjà pas mal abordées assez souvent d'ailleurs dans la méthode scientifique, parce que je trouve ça toujours passionnant. C'est la vocation, on demande souvent ça aux artistes et moins aux scientifiques, alors que néanmoins on se rend compte qu'entre scientifiques et artistes, parfois il y a une feuille de papier à cigarette. Donc il y avait vraiment toute cette première partie, et ensuite c'est vraiment les deux sources, c'est Bachelard, la naissance de la pensée scientifique, et j'ai trouvé ces travaux passionnants d'une sociologue, psychologue américaine qui s'appelle Vera John Steiner, et qui a écrit un livre dans les années 80 qui s'appelle Notebook of the Mind, et qui, elle, et on retombe sur ce lien entre la création artistique et la création scientifique, qui a, elle, interrogé une centaine de personnes qui sont autant des créateurs ou des créatrices, des artistes, que des scientifiques. Et qui interrogent vraiment le processus de création. J'ai aussi un peu travaillé, notamment sur des travaux d'Ivagide, que j'interroge, qui lui aussi a travaillé, qui est neuroscientifique et qui s'est beaucoup intéressé à cette notion de créativité, à l'émergence de l'idée nouvelle. Et donc, à travers ça, en prenant toutes ces sources, j'ai fini effectivement par établir un questionnaire unique que j'ai posé, et j'ai posé toutes les questions à chacune et à chacun. Et ensuite, en reprenant, et j'ai beaucoup retravaillé les entretiens, parce que les entretiens, les plus courts ont duré une heure, et pour les plus longs, c'est 2h45.
Ah oui, quand même.
Ouais. Et donc ensuite, il y a eu vraiment plusieurs passes de réécriture, 4 passes minimum par entretien. Ça a été un travail assez considérable, parce que, et paradoxalement, au début, j'en levais très très peu en me disant que je trouvais tout passionnant, et puis ensuite j'ai laissé un peu reposer, et ensuite je reprenais avec un peu de recul, et je me rendais compte que je pouvais soustraire sans rien retirer au sel de l'entretien. C'est-à-dire que quand je relis le bouquin, je me dis, c'est-à-dire que je n'ai vraiment quasiment rien enlevé. Alors si parfois, en fait, j'ai enlevé quand il y avait trop d'exemples, j'en garde un que je file tout le long de l'entretien, ou quand on rentrait dans des détails, par exemple, dans le parcours universitaire, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ? Non. Enfin, en fait, j'ai enlevé le superflu pour vraiment garder l'essentiel et pour garder vraiment ce qui caractérisait le plus chacune et chacun des scientifiques avec lesquels je m'entretenais.
It's a god-awful small affair. to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
ces scientifiques, comment tu les as choisis? Parce que tu évoquais le fait que tu en avais reçu quand même beaucoup dans la méthode scientifique. Après, il y a un choix à faire, il y a un choix en termes de discipline, il y a un choix en termes de parité, non-parité, mais ça, on peut en parler, justement. Et explique un petit peu comment
À l'origine, il devait y en avoir 20. Les trois défections ont été trois femmes, donc d'où 10 et 7. Il y a 10 hommes et 7 femmes.
On peut savoir pourquoi?
Pour des raisons distinctes. Puis je vais pas les nommer parce que
oui, pas voulu, donc,
bien sûr, mais c'est pas très intéressant. Il y en a une qui au début m'a dit oui et puis ensuite j'ai plus de nouvelles. Il y en a une qui a aussi accepté et puis ensuite elle avait plus le temps et elle était débordée, et voilà. Et puis il y en a une qui était partante et puis à un moment donné. Et puis je pense que, aussi, c'était une dame un peu âgée et que c'était un peu compliqué. Et donc voilà. Comment j'ai choisi? Les choix ont été assez simples. parce que donc je voulais une personne par discipline, puisque l'autre intérêt du livre, c'était non pas seulement de comprendre comment fonctionne un esprit scientifique, mais de se dire est-ce que un mathématicien fonctionne comme une généticienne, est-ce que un physicien théoricien fonctionne comme une linguiste. Enfin, c'était aussi de dire qu'on puisse comparer entre les différents domaines scientifiques. Et ensuite, ça a été aussi assez simple. C'est-à-dire que je suis allé vers les gens avec qui je m'étais déjà entretenu, avec qui j'entretenais des bons rapports, et dont je savais qu'ils se prêteraient volontiers à l'exercice. Mm-hmm. Et ça a été assez immédiat. Mais par exemple, il y a des choses curieuses. C'est-à-dire que il y a que deux prix Nobel, entre guillemets. il était censé y en avoir plus. Mais par exemple, j'ai pas pris Serge Haroche ou Cohen Tanuji parce que j'avais déjà Alain Aspect en physique quantique et que je voulais pas avoir plusieurs personnes en physique quantique. Donc ensuite, oui, je suis allé un peu assez rapidement à l'évidence et j'ai pas eu beaucoup de mal à avoir ma liste. Et vraiment, à part ces trois personnes qui ont plus ou moins accepté et qui ont fini, tout le monde m'a dit oui tout de suite. Et ça, je mesure la chance, mais c'est le privilège. Et c'est vraiment, et je suis très très honoré d'ailleurs de leur confiance, parce que c'est les liens aussi qu'on a noués
avec l'émission
et la confiance. Qu'ils avaient en moi et en mon travail, et je suis vraiment très très flatté et très honoré d'avoir été le récipiendaire de cette confiance. C'est honnête, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché.
Oui, non, mais ça je comprends tout à fait. Alors, on évoquait donc cette non-parité involontaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des générations différentes.
Oui, aussi, tout à fait.
Et que, c'est très important, en fait, quand tu lis les entretiens, tu t'aperçois que, selon les générations, le parcours n'est pas forcément le même.
Tout à fait. Ça faisait partie de l'autre. Il faut dire qu'on est plus généralement du côté de scientifiques qui ont fait l'essentiel de leur carrière. La plupart d'entre elles et eux, mais on a encore quelques scientifiques qui sont en milieu de carrière. J'ai pas pris de jeunes scientifiques parce que je voulais aussi justement qu'ils aient déjà encore quand même un petit peu de recul sur leur parcours sur leur parcours professionnel pour pouvoir le commenter, pour pouvoir donner des pistes quoi. Mais c'est intéressant et je trouve ça particulièrement intéressant pour les femmes, pour être tout à fait honnête. Parce qu'on se rend compte qu'il y a eu une évolution. Ça, elle est indéniable, qu'on n'y est pas encore. L'exemple d'Evelyne Heyer est flagrant là-dessus, où elle dit aujourd'hui encore, où il y a peu de temps, j'étais main speaker dans une conférence, j'étais la troisième à passer. Le premier, on lui dit professeur machin. Le deuxième arrive, on dit professeur machin.
Et moi,
quand on me demande de venir, on m'appelle Evelyne. Et ensuite, on a aussi Laurence de Villers qui dit que ça a pu être un handicap à un moment donné, mais que ça a aussi pu être une opportunité pour elle, parce que, à un moment donné, dans un milieu qui est l'informatique, qui est un milieu notoirement masculin, à un moment donné, elle a aussi conscience que ça a pu être un atout pour elle, parce qu'elle avait un besoin de féminisation, de parité, etc. Et évidemment, à compétence égale, si ce n'est supérieure.
Alors, ce qu'on remarque également, Nicolas, dans la différence générationnelle dans ce livre, donc La naissance du savoir, paru aux éditions Les Arènes, c'est la pression qui existe sur les plus jeunes, la pression de publication. Faut publier, pression qui n'existait pas. Et cette pression de publication, elle est quand même extrêmement pesante, anxiogène, et on le ressent vraiment dans les entretiens.
Oui. On le ressent, et même les émérites se rendent compte que la donne a changé et que les conditions de recherche aujourd'hui ne sont certes pas les mêmes que celles qu'ils ou elles ont connues au début de leur carrière. C'est intéressant parce que on m'a demandé déjà pourquoi j'allais pas justement un peu plus les chercher dans la politique de la recherche. Et en fait, je pense que c'est un autre sujet.
C'est pas le sujet.
Mais néanmoins,
ça transparaît.
Ça transparaît parfois de manière assez. assez virulente, hein, chez Marc-André Sellos, chez Marc Lachaiseret, qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère pour dire qu'aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir vraiment la science chevillée au corps et une sacrée vocation pour se lancer dans une carrière de recherche, compte tenu des conditions salariales, des conditions d'exercice de la recherche, compte tenu de la présidence actuelle du CNRS, par exemple. Marc-André Sellos, il va pas de main morte, pour le coup. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est aussi intéressant d'avoir leur regard rétrospectif. Et je crois que c'est Sophie Zoppa aussi qui dit bien qu'il y a quelque chose quand même d'assez stupéfiant à voir les générations supérieures qui n'ont globalement pas eu de problème pour faire leur carrière être aujourd'hui en position de défendre un système qui est un système qui lui-même est hyper concurrentiel, même s'ils sont quand même très très nombreuses et nombreux à le critiquer. Hein. Le publisher perish, il y en a quand même beaucoup disent que ça n'est pas la recherche qui veulent faire, et que c'est pas comme ça qu'ils considèrent que la recherche peut être performante.
Oui, mais de toute façon, il y a une des questions du questionnaire. On ne va pas déflorer le livre, mais qui est sur collaboration-compétition, qui est très parlante sur le sujet.
Oui, tout à fait. Ouais.
Nécessité de travailler ensemble.
C'est ça. Et puis de voir que quand même, pour beaucoup d'entre elles et eux, ça a d'abord commencé par de la collaboration. Avant, je ne sais plus, c'est Evelyne qui me dit qu'elle a connu la compétition que très tard et que d'un seul coup, elle est un peu tombée des nues. Parce qu'elle s'est rendue compte que d'un seul coup, il y avait une compétition féroce, mais que ça est arrivé finalement relativement tard dans sa carrière. Je ne suis pas sûr que ce soit Evelyne, je me mélange peut-être un peu les pinceaux. Que ce soit Evelyne hier, d'ailleurs, on ne va pas l'appeler. Enfin, en même temps, je dis Marc-André. Bref. C'est. Parce que c'est l'une des données du monde de la recherche actuelle et c'était aussi intéressant d'avoir leur point de vue là-dessus.
One more wasted digging hole. Down where the streets are paved with soul, it makes it harder to join the dots. The river gets wider in front of us. The last train will pull. At night the war still comes to hear. It makes it harder to join the dots. The river gets wider in front of us. Baby, we're nothing but violence. Desperate, so desperate and feeling. Mess me around till my heart breaks. I just need to feel it. Baby, we're nothing but violence. Desperate, so desperate and feeling. Desperate and feeling. One more wasted digging hole. Down where the streets are paved with souls. The last train will pull you through. At night the war still comes to you. Makes it harder to join the dark. The river gets wider in front of us.
dark, the river gets wider. Oh, in front of our baby, we're nothing but violence, desperate, so desperate and feelings mess me around till my heart breaks. I just need to feel it. Baby, we're nothing but violence, desperate, so desperate and feeling, desperate and feeling.
D'autant plus qu'on s'aperçoit que beaucoup, dans leur mode de fonctionnement, ont l'habitude de maturer une idée et de la présenter oralement aux autres, et de cette importance de la collaboration, du retour des autres, qu'ils soient de la même discipline ou pas, d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant aussi, qu'on découvre en lisant La naissance du savoir, Nicolas Martin, ce livre paru aux éditions Les Arènes, c'est que là aussi, la transdisciplinarité est quelque chose qui compte beaucoup.
Oui, qu'elle vient d'ailleurs globalement assez tardivement. Qu'il y a beaucoup d'entre elles et eux qui disent qu'à un moment donné
ils vont vers la philosophie,
ou même vers des équipes intégrées, et que après être parti dans une seule direction, petit à petit,
il y a le besoin de
s'ouvrir à d'autres disciplines et aller chercher des outils dans d'autres disciplines et d'avoir des laboratoires intégratifs, et que ça c'est quelque chose des changements relativement récents dans la pratique de la science. Ouais, tout à fait.
Alors il y a un dernier point, parce qu'on va pas tout dévoiler, mais qui est important, parce que c'est une question qui moi m'a particulièrement intéressée, c'est le rapport à l'anomalie. Et bien sûr.
C'est l'une des questions, parce que on a dit la première partie c'est la vocation, la deuxième partie c'est vraiment plutôt la structure de la pensée. Je leur demande s'ils pensent. On a toujours tendance à penser que le reste du monde pense comme nous. Par exemple, moi, j'ai pas une, mais j'ai plusieurs voix intérieures. C'est-à-dire que moi, j'entretiens, quand je réfléchis, toujours...
C'est un dialogue.
Oui, un dialogue, parfois même plus. Et puis souvent, il y a un moment donné où je me lève et je verbalise. C'est-à-dire que je suis obligé de parler à voix haute. Ouais. Et donc, je pensais que globalement, et c'est normal, parce que c'est pas des choses dont on discute en soirée tellement avec les copains. On se rend compte que pas du tout. Tout le monde ne pense pas de la même façon. Il y a des gens qui n'ont même pas de voix intérieure. Il y a des gens qui pensent en concept. Je repense à Evine Eyer, une fois de plus, qui voit ces villages, les traits gens qui échangent et qui voit ou Étienne Gis, qui à un moment donné a un logiciel et montre à sa femme en disant tu vois, ma pensée, ça ressemble à ça. Et ça ressemble plus à de la géométrie et pas du tout à des équations. Donc c'est très très surprenant. Donc voilà. Et dans la troisième partie, je vais plutôt effectivement leur poser des questions sur les conditions d'exercice de la pensée. Donc notamment, est-ce qu'ils ont besoin de silence, de discussion, ou au contraire d'isolement. Je leur pose aussi des questions sur le sommeil, parce que la question du
sérénité ou anxiété.
Ça c'est très intéressant, la question de la sérénité ou de l'anxiété. C'est-à-dire, est-ce que la recherche est pourvoyeuse de sérénité ou au contraire d'anxiété? Vous verrez, les réponses sont là aussi assez surprenantes. Et l'une des questions que je pose, c'est quelle est votre réaction quand vous êtes confronté à une anomalie? Et les réponses sont très distinctes.
Mais très intéressantes.
Et moi les questions que j'aime beaucoup aussi, c'est que après l'anomalie, la question qui vient ensuite, c'est de dire à quel moment, qu'est-ce qu'il faut pour que vous considérez que vous faites fausse route? Et qu'est-ce qu'il vous faut, à quel moment vous vous dites maintenant il faut arrêter parce que ça ne va pas? Est-ce que vous êtes ardu ou est-ce qu'au contraire vous abandonnez rapidement, etc. Et je pose aussi la question de l'échec. Donc, et moi ça je trouve que c'est, et souvent c'était intéressant parce que pour le coup c'est vraiment des questions qu'on leur avait jamais posées.
Alors c'est des questions qu'on leur a jamais posées, mais c'est des questions qu'on ne pose pas en général.
Et pour l'échec d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que aujourd'hui, et c'est l'un des progrès de la science, il faut et il faudrait beaucoup plus publier, et ça se fait de plus en plus, publier les résultats, même quand ils ne sont pas positifs. Mmh. Parce que ça évite déjà de tricher, de truquer des résultats pour vouloir publier à tout prix. Et puis parce que un résultat négatif, c'est aussi un résultat, et que ça peut permettre à d'autres équipes de gagner du temps, etc. etc. Mmh. Mais je leur demande, dans la conclusion, qui est la quatrième et dernière partie, je leur demande quelle est votre plus grande réussite et quel est votre plus grand échec. Et ça aussi, je trouve qu'il y a des réponses absolument prodigieuses et extrêmement intéressantes. Chaque chapitre commence par une petite exergue d'une des citations de l'entretien. Et y en a deux que j'aime beaucoup. Il y en a une qui est encore dans le livre et la deuxième qu'on a changée. Je ne cache pas mon admiration complète et absolue pour Carlo Rovelli, qui est le premier entretien.
Et en plus, il est remarquable.
Il est incroyable. Et puis Carlo Rovelli, alors ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que Carlo Rovelli, c'était un demi-cancre quand même. Ouais. C'est un demi-cancre qui voulait être un poète, mais un poète raté, qui s'intéressait surtout aux filles, à fumer du hash et à prendre du LSD avec ses copains. Je veux dire, qu'un prof de fac lui dise, Carlo, tout de même, t'es pas mauvais en physique, ce serait peut-être bien que tu te calmes. Donc voilà, et Carlo dit, je vais te retrouver la citation parce que je veux pas me tromper. Voilà, j'adore ça, c'est du pur Carlo. Carlo dit, la science, ça n'est pas de résoudre des problèmes auxquels il n'y a aucune réponse, c'est de trouver des problèmes que nous pouvons résoudre. Ouais.
C'est
bon. Et ça, je trouve ça super. Et l'autre citation qu'on a changée, parce que c'était un peu hors contexte et hors sol, c'était un peu bizarre, mais moi, c'est un truc que j'adore, encore une fois, chez Evelyne Heyer, mais j'adore Evelyne Heyer aussi. Je trouve que c'est une chercheuse passionnante et une incroyable transmetteuse de science, qui est donc anthropogénéticienne. Et Evelyne Heyer me dit ceci de génial, elle me dit... Elle a été beaucoup dans différentes ethnies, dans différents endroits du monde, à la rencontre de plein de civilisations et d'ethnies différentes. Et elle me dit, mais moi, si je vais retenir un truc, c'est que, en fait, je trouve que les êtres humains sont sympas.
C'est beau.
Et je trouve ça génial. En ce moment, moi, ça me fait du bien de lire et d'entendre ça. Elle me dit, mais en fait, les êtres humains sont sympas. Et il y a un truc que j'ai trouvé sur tous mes terrains d'études, etc., c'est qu'à un moment donné, même si on est à des cultures diamétralement opposées, etc., à un moment donné, on rit ensemble. Et les êtres humains sont sympas. Et moi, j'ai envie de rester là-dessus et surtout de dire, et les scientifiques sont sympas. C'est-à-dire que quand on lit ce bouquin, ou moi, en faisant ces entretiens, mais en fait, non seulement, je les connaissais un peu et j'ai le grand privilège d'avoir pu passer du temps et de discuter et de rentrer dans leur intimité, mais c'est vrai que c'est des gens sympas. C'est des gens sympas, c'est des gens accessibles, c'est des gens qui ont des angoisses nocturnes. Comme vous et moi.
Mais la nuit, c'est incroyable la nuit.
C'est des gens qui ont la peur de l'échec, c'est des gens, Alain Aspect, qui me dit quand même, quand on m'appelle pour me dire que j'ai reçu le prix de Nobel, ma première pensée c'est de me dire, non mais ils se sont trompés, ça n'est pas moi. Donc ce sont des gens sympas et voilà, et je suis ravi d'avoir été une fois de plus un intermédiaire et un passeur pour vous permettre de découvrir que ces gens-là sont comme vous et moi.
Et ils sont passionnants.
Ouais, voilà,
parce qu'ils parlent de leur discipline et on comprend, et ça s'appelle La naissance du savoir. C'est de Nicolas Martin, c'est paru aux éditions Les Arènes. Merci pour ce livre, Nicolas. Alors, question maintenant, puisque on va parler quand même de ce tu fais aux éditions Les Arènes.
Tout à fait. Ce livre-là, c'est moi qui l'ai signé, mais maintenant je suis donc éditeur pour Les Arènes. Je m'occupe du rayon scientifique hors sciences humaines et sociales, puisque les Arènes sont vraiment leur champ de publication principal. Mais il leur manquait quelqu'un pour développer un peu leur catalogue de sciences. J'ai quelques projets en cours. Je peux t'en parler d'un en tout cas, parce qu'il est pas mal avancé et normalement ça devrait arriver d'ici la fin de l'année.
Ah bien.
Parce que ça demande un bon boulot, mais on a commencé à bosser en fin d'année dernière, donc normalement fin d'année, début d'année prochaine, on fait un grand livre qui serait un peu une sorte de livre référence sur les MAC. Les médecines alternatives et complémentaires, et avec vraiment l'ambition d'en prendre un corpus, c'est-à-dire d'une trentaine, une quarantaine de pratiques, quelles qu'elles soient. Ça va de l'hypnose à l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, les huiles essentielles, mais aussi les coupeurs de feu. Enfin bref, on va la naturopathie évidemment. Enfin bref, et vraiment de dire simplement, qu'est-ce que c'est ? De quoi on parle ? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. En fait, tout le monde utilise même moi, hein, qui suis quand même un grand rationaliste, on y a tous recours à un moment donné, peu ou prou. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle en est l'histoire? Qui sont les praticiens? Quelles sont ces pratiques? Si la science l'a évalué, qu'est-ce que la science en dit? Donc c'est pas du tout un truc pour dire c'est que de la merde ou que c'est qu'un attrape-gogo, loin s'en faut. C'est au contraire un vrai livre raisonné pour faire un état des lieux.
Okay.
Et de dire voilà où ça rentre, pourquoi il y en a certaines qui rentrent à l'hôpital, et qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce qu'on peut en dire, en fait, et comment on peut l'observer. Donc voilà, on va faire vraiment un grand tour d'horizon avec une belle enquête aussi sur, bien sûr, ce que ça concerne, combien de personnes ça concerne, quels sont les marchés qui sont derrière, parce qu'on entend souvent dire que les médecines alternative et complémentaire, c'est contre le Big Pharma, mais enfin, il faut toute pratique génère des revenus, donc il y a une économie également derrière, et donc vraiment voilà, on veut vraiment faire un tour d'horizon, et c'est les deux auteurs et autrices sont des gens de talent, puisque c'est Alexandra Delbo qui présente le journal des sciences tous les matins dans la matinale de France Culture, et Florian Gouttière qui travaille chez Check News à Libération et qui travaillait avant au journal de la santé sur France 5.
D'accord, donc d'ici la fin de l'année.
Fin de l'année, début de l'année prochaine. Voilà.
Super.
Mais plein d'autres choses. Mais des bandes dessinées de vulgarisation, des choses dont je vous parlerai quand ça aura un peu plus avancé aussi.
Et dans les projets perso, il était question d'un roman.
Le roman de SF est en cours. Je le termine là. En ce moment, cet été, ça devrait. La V1 devrait être terminée. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura encore du boulot derrière. Et puis le long métrage de cinéma, de fiction, est aussi en cours. On est en casting. Ça avance doucement, mais sûrement.
Ça va, tu dors quand même de temps en temps.
Eh ben oui, mais comme les scientifiques, je dors peu.
Merci Nicolas.
Ben, merci à toi.
Lisez La naissance du savoir, c'est Nicolas Martin, c'est paru aux éditions Les Arènes.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
C'est toujours Radio Libertaire, c'était Nicolas Martin pour La naissance du savoir, paru aux éditions Les Arènes. On va retrouver maintenant Marie Richeux, qu'on a eu l'occasion de découvrir pour ce livre, ce récit qui est paru aux éditions Sabine Vespizère et qui s'intitule « Jour de naissance ». C'est toujours pour Radio Libertaire, 89,4 MHz, c'est pour l'émission Idéo et Débat, avec le plaisir aujourd'hui de découvrir Marie Richeux pour un récit qui est paru aux éditions Sabine Vespizère, qu'on aime bien dans cette émission. Et ce récit s'intitule « Jour de naissance ». Alors pour nos auditeurs qui n'ont pas le livre sous les yeux, Marie Richeux, il faut préciser que ce « jour de naissance », ce sont des jours au pluriel. Et je crois que c'est important d'emblée de préciser pourquoi il y a un « S » à jour.
Ah, il y a un « S » à jour. Déjà, merci pour votre invitation. Et je salue tous les auditeurs et tous les auditrices de Radio Libertaire. Belle radio que j'écoute de temps à autre. Jour de naissance est au pluriel parce qu'il y en a 7. Ce sont les 7 jours qui font suite à la date qu'on dit du terme, c'est-à-dire la date attendue, notée sur tous les dossiers, sur tous les documents administratifs et officiels relatifs à une grossesse. Et après cette date-là, eh bien, s'ouvrent des jours peut-être plus incertains. Ça ne veut pas dire que ceux d'avant étaient plus certains, mais ceux-là le sont plus encore. Et c'est la vibration assez incertaine, la sorte d'ivresse de ces 7 jours qui suivent le jour du terme que j'ai essayé de décrire dans Jour de naissance.
Tout à fait. Alors moi, ce récit m'a fascinée parce qu'il y est question du rapport qu'on peut entretenir avec le temps, justement. On voit que jour est au pluriel. Vous commencez le récit, Marie Richeux, alors que vous êtes dans le 9e mois. Ce 9e mois, c'est une période particulière de la grossesse. C'est un moment spécifique. Et avec ce terme qu'on évoquait, qui est un terme théorique, ça c'est le terme médical aussi qui est utilisé, qui est cette espèce de date butoir. Et il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie où on a de telles échéances. Et la naissance en fait partie.
Absolument. Et ce que je trouve vraiment fascinant dans cette expérience du temps, il y en a plusieurs, et je trouve qu'elle change de qualité en fait dans la grossesse. y a une sorte de transformation du rapport au temps, parfois dans une seule et même journée. Mais c'est vrai qu'il y a à la fois une date butoir, mais on n'est pas sûr de cette date. C'est-à-dire que réservons-nous pour l'instant la discussion autour du 9e mois. Il y a une date butoir, mais on sait, c'est dit, que dans le 9e mois, entre guillemets, cela peut arriver à n'importe quel moment. Et donc c'est vraiment un rapport au temps étonnant, quoi. Quelque chose va arriver et on nous dit que ce sera au plus tard cette date-là et peut-être n'importe quand avant. Mm. Et comme vous dites, moi, je n'ai pas rencontré dans ma vie cette sorte d'attente, quoi. Mm. Cette sorte d'attente aux coordonnées à la fois certaines, ça va arriver.
Oui, oui, oui. C'est inéluctable, la naissance va avoir lieu.
Ça va avoir lieu. Et tellement incertaine. Donc ça, c'est déjà ce que j'appelle le lot du 9e mois. Mm. Et puis, quelque chose se met à vibrer plus fort quand cette date butoir est atteinte, que, entre guillemets, rien ne s'est passé. Plein de choses se sont passées, mais pas ce qu'on attendait. Et s'ouvrent d'autres jours. Mm. Et donc, un autre rapport au temps. Mm. Alors, c'est vrai que moi, ça, cette ouverture, elle a été aussi permise, je le dis juste en passant, parce que pour une deuxième grossesse, j'ai été suivie dans une maison de naissance. Ce sont des lieux rares en France, il y en a 12. Il en existe une seule pour l'Île-de-France. Et le contrat qui est passé entre la maison de naissance et la maternité attenante, c'est 7 jours maximum. Mm. Voilà. Au bout de 7 jours, on a rendez-vous aux urgences.
Pour un déclenchement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce 9e mois, avant d'aborder les 7 jours donc du post-terme, ce 9e mois, comme vous l'évoquez, Marie Richeux, c'est le 9e mois d'une deuxième grossesse. Mmh. Donc, c'est aussi quelque chose de particulier. Absolument. Parce que, en matière de temps, la naissance, c'est aussi quelque chose qu'on peut reconvoquer, c'est un moment qui restera éternellement présent. Et vous le dites également dans Jour de naissance, donc paru chez Sabine Vespizer, ce moment, vous pouvez le reconvoquer, et en même temps, vous l'avez en vous, parce que l'ADN de votre première fille est toujours là. Donc, il y a un jeu étrange qui se joue avec la maternité, un jeu de, un petit peu de poupée russe, et de poupée russe temporelle.
Mmh, absolument. Et comme vous dites, à la fois, on peut toujours le reconvoquer, mais c'est aussi une présence-absence, c'est-à-dire que, je peux le dire, Hélène Cixous apparaît dans ce texte à deux reprises. C'est quelqu'un à qui le mot apparition convient parfaitement. Mmh. Et elle me disait récemment, il ne faut pas la manquer, la petite enfance. Alors, je ne sais pas quelle était exactement ce qu'elle voulait dire par là. Mais en tout cas, elle avait l'air définitive sur quelque chose qui disparaît quand même. Alors, on peut le dire à plusieurs échelles, c'est-à-dire notre propre petite enfance, elle ne nous est pas accessible. C'est quand même une expérience vertigineuse. Ouais. Nous n'avons pas de souvenirs propre naissance. Des premiers mois, c'est inaccessible en fait. On peut peut-être, je sais pas, par voie de chamanisme, certains disent par voie d'hypnose, etc. Mais sinon, on n'a pas accès à ça, donc c'est quand même très étonnant. Ce qui est plus étonnant encore, c'est que quand bien même on a été entouré et on côtoie encore les personnes qui nous entouraient à ce moment-là, ils n'y ont pas beaucoup accès non plus.
Et puis c'est du récit.
C'est du rapporté. Et en même temps, ces mêmes personnes qui ont entouré ces premiers moments, souvent, et peut-être plus souvent encore quand ça se passe bien, et encore que, ils sont en mesure de dire des choses précises sur la naissance, même 50 ans après. Donc c'est vraiment, on parlait dans un premier temps de l'expérience au temps, et puis il y a aussi l'expérience à la mémoire. Il y a des choses qui sont percutantes et qui marquent des corps à vie. Et puis il y a toute cette espèce de mémoire recomposée autour, ou parfois de blanc, combien de personnes disent aussi, et souffrent de ne rien savoir de leur naissance. Donc, une autre histoire.
Ils disent que jeunesse, ça passe. Ils disent que de vivre, ça lasse. Ils disent que demain ne vaut rien. Ils disent que la vie n'est que chagrin. C'est ce que prétendent les anciens. N'écoutez pas leur sens commun. N'écoutez pas ces vieux déçus qui vous veulent tels qu'ils ont vécu. Vous qui venez de naître à cette terre qu'il a découvert dans sa lumière. Vous à qui ils disent trop tard, bien que si belle encore à voir. N'écoutez pas ces mots amers de ceux qui ont pollué la mer et la terre, ceux qui vous laissent un air corrompu et qui vous disent que c'est foutu. Vous qui venez de naître à cette terre, qu'il a découvert dans sa lumière, sachez que cette terre est à vous et qu'elle survive dépend de vous. Surtout récusez leurs vieilles croyances, sachez qu'on peut encore en guérir de notre histoire, de notre tendance à toujours provoquer le pire. Vous qui venez de naître à cette terre, vous à qui nous devons l'avenir, pour qui le souvenir est nécessaire comme exemple à ne pas reproduire. Vivez à l'envers de l'histoire, surtout vivez autrement. Vous devez encore y croire, car il en est vraiment encore temps. Vous qui venez de naître à cette terre, qu'il a découvert dans sa lumière, donnez-lui de votre jeunesse et que de nos cendres elle renaisse. Ne croyez pas qu'il soit trop tard, refusez ce qu'ils veulent vous faire croire, refusez le déclin annoncé, refusez, refusez, refusez.
Alors, ce qui est intéressant aussi, Marie Richeux, dans Jour de naissance, donc paru chez Sabine Vespizer, c'est que vous abordez une écriture extrêmement sensorielle. Et à propos de la question de la mémoire, je crois que c'est quelque chose d'important aussi, parce que on n'est pas là dans une mémoire chronologique, on est dans une mémoire des sens, et c'est ce qui se produit, parce que votre corps est lourd, parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a des odeurs, parce que cette odeur de girofle qui est si présente dans l'huile de massage. Et c'est ce qui fait peut-être la force de ces souvenirs, c'est justement cette dimension sensorielle.
Absolument, et vous avez tout à fait raison de le souligner, à tel point que c'est par le sensoriel que le texte s'est invité. Un an, je ne le raconte pas, mais je peux vous le dire là, un an après la naissance de ma fille, dans un trajet en train, me revient la spécificité de cette odeur qui mélangeait du clou de girofle et d'autres huiles dont je ne me souviens pas, avec une très grande précision. Mmh. C'est l'odeur qui me revient. Mmh. Et je me rends compte qu'en tirant à peine sur cette petite bobine d'un souvenir comme ça, vraiment d'un impact sensoriel, je peux retrouver avec plutôt beaucoup de facilité et beaucoup de détails les moments qui m'ont entouré la naissance ou les jours d'avant la naissance. Et en fait, j'ai été surprise de ça. Mmh. C'est-à-dire que je ne prévoyais évidemment pas d'écrire un texte. Sage-femme, mon précédent roman, était paru un an avant. J'avais bien d'autres choses à gérer, malheureusement ou heureusement. Et en fait, c'est par les sens et par le corps que la précision de la mémoire s'est révélée, et c'est comme si j'y étais tout de suite en appétit de mots. Mmh. Je me suis fait surprendre aussi de ma possibilité de le traduire en mots. Donc, j'étais dans un train, j'ai sauté dans le train d'écriture, et j'ai vraiment suivi cette piste-là de manière très animale. Et voilà, c'est pareil, vous parlez du corps, des couleurs, de la lumière. Peut-être que j'ai déjà un rapport au monde qui est comme ça. Et aussi que la mémoire, disons, elle passe quand même par ces chemins-là, quoi. Elle laisse des traces aussi par ces chemins-là.
Tout à fait, tout à fait. Et je pense que le fait que ça soit effectivement par une odeur, par l'olfaction, qui a un sens très primitif, et qui est l'un des premiers du bébé aussi.
Je
trouve ça intéressant que ça revienne comme ça.
Vous avez raison, on dit que le bébé rampe sur le ventre
parce
de sa mère.
Parce qu'il est attiré par l'odeur.
Encore une fois, quand tout se passe bien, mais qu'il rampe sur le ventre de sa mère pour aller chercher le sein, pas tant forcément parce qu'il a faim que pour une question d'odeur, ce qui est fou, qui nous rappelle qu'on est vraiment des petits animaux, quoi.
Tout à fait. Et donc il y a cette animalité qui est là et qui va être déclinée dans tout le récit de Jour de naissance jusqu'à la naissance. Alors, vous dites, Marie Richeux, dans ce récit, que les naissances s'appellent les histoires aussi.
Oui, absolument. Et j'ai été forcée de le constater quand j'ai moi-même décidé d'avoir un enfant, si c'est une décision pour prendre, quand j'ai eu autour de moi des gens qui avaient des enfants et qui se mettaient à raconter les naissances. Mmh. En fait, je me suis rendu compte que moi, j'étais happée par ces récits, quelle qu'en soit la teneur. Je me rappelle de soirées, mais vraiment des soirées entre amis, des fêtes, il y a du boucan, il y a de la musique, il y a de la fumée partout. Je me rappelle de soirées où quelque chose s'ouvre, quoi. Vraiment, le temps s'ouvre, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre et qui s'arrête. En l'occurrence, c'était des femmes qui racontaient le moment où elles avaient donné naissance à un enfant. Ça m'a saisie avant même de mettre au monde deux enfants. Et je pense qu'il y a quelque chose peut-être de, comme pour toutes les expériences fondamentales de l'existence ou extrêmes de l'existence, qui nous met en route vers le récit, quoi. Qui, parce que c'est aussi quelque chose de la nuit des temps, et donc qu'est-ce qu'on fait depuis la nuit des temps? Bah, on se raconte des choses, enfin, il y a vraiment un rapport avec l'origine, en fait.
On se raconte les moments essentiels, ouais, de la vie, ouais, et la naissance, c'est le premier, c'est, ouais, le tout premier. Alors, c'est vrai que ça appelle des histoires, mais pour revenir sur la notion d'animalité, parce qu'on évoquait les mémoires sensorielles et l'olfaction, elle apparaît d'une autre manière aussi, cette animalité. Elle apparaît sous forme, j'allais dire, du territoire de ces jours de naissance. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression vraiment d'une délimitation très, très précise du territoire où va avoir lieu cet événement important.
Vous avez tout à fait raison. Et je l'ai vu naître à la fois dans le réel et ensuite, un an après, en écrivant le texte. Disons que l'écriture du texte m'a permis de regarder avec plus de précision ce qui s'était passé pour moi du point de vue du territoire. Je vais essayer de répondre précisément à votre question. D'abord en disant que la maison de naissance où j'ai été suivie n'est pas très loin de la porte de Vincennes, elle même pas très loin du bois de Vincennes. Et que petit à petit, j'ai senti qu'il y avait une attirance vers le bois de Vincennes. Et puis c'était les beaux jours, et je me mettais un peu à rôder dans ces bois après les consultations, et peut-être plus encore quand on a dépassé ce fameux terme. Mais il y a aussi un territoire qui bouge autour de la maison, la chambre, la cage d'escalier, quand je décide de couper le téléphone, de couper l'ordinateur, de couper tout le contact avec un monde social, même le monde de la convivialité et même petit à petit le monde du langage. Jusqu'à ce que des questions de territoire deviennent précises, voire déterminantes. Puisque le jour, on saute des étapes, mais le jour où se met en route le fameux travail, il faut que je bouge de territoire, il faut que je remonte un couloir dans mon appartement, que je quitte le salon, peut-être lieu du social, ou lieu encore de la famille, ou lieu encore de la cellule du couple, et que j'aille au fond de mon appart, où c'est sombre, où la nuit est tombée, où les volets sont fermés parce que c'est l'été et qu'il fait chaud, pour que quelque chose commence vraiment.
Vraiment.
Et je suis persuadée que ce couloir remonté a fini de me séparer d'un monde pour me faire entrer dans un autre monde. Et tout ça, ce sont des choses évidemment qu'on ne se dit pas quand on les vit, et heureusement qu'on ne se les dit pas, mais dont je suis intimement persuadée.
Oui, et puis c'est le chemin inverse d'une naissance. C'est ce qui est quand même assez troublant aussi.
Je ne suis fils de personne, je ne suis d'aucun pays. Je me réclame des hommes qui aiment la terre comme un fruit, qui aiment la terre comme un fruit. Au gré de l'amour, je veux m'abandonner au rythme des jours et des nuits dévoilées. J'aime le goût d'écume, la saveur des embruns, la douce amertume des brumes du matin. Reverrai-je encore l'automne, le temps des grandes marées, puis l'hiver où tout frissonne, puis en printemps, puis l'été. Toute saison pour aimer. Au gré de l'amour, peut-on s'abandonner quand on se souvient ce que sera demain?
entre les humains qui s'aiment dans leur coin. Les forêts d'acier fleurissent de barbelés. Sommes-nous si peu de choses, des insectes trop petits? Ne sommes-nous donc plus des hommes pour nous laisser faire ainsi? Est-il encore temps d'aimer? De l'amour, j'aimerais m'abandonner dans un lit de sable par les vagues bordées, sous le grand soleil avant d'être glacé, au bruit des abeilles, vivre le temps d'aimer. Reverrai-je encore les neiges, les feuilles mortes s'envoler? Laissez-moi me prendre au piège du doux plaisir d'exister. Laissez-nous le temps d'aimer. Mais je ne suis fils de personne, je ne suis d'aucun pays. Je me réclame des hommes qui aiment la terre comme un fruit.
Qui aiment la terre comme un fruit.
Mais on va revenir donc à ce qu'on évoquait, Marie Richeux, donc, et dont nous parle Jour de naissance, ce récit paru chez Sabine Vespizer. Arrive la date du terme théorique. Ça va arriver. Et la journée passe. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Alors, effectivement, on sait qu'au bout de 7 jours, ce sera les urgences, le déclenchement, etc. Mais dans ce laps de temps. Et là, ça devient absolument fascinant, tant dans l'écriture que dans l'émotion qu'on ressent à le lire, c'est que le temps devient une matière complètement élastique, qui se dilate, qui se rétracte. On est dans Alice au Pays des Merveilles, complètement. Il y a la fiole pour grandir, la fiole pour rapetisser, et on est complètement là-dedans, et on est en suspension totale. Et c'est absolument fascinant.
Et ça, c'est formidable que vous me disiez ça, parce que ça veut dire que j'ai réussi à rendre, par la littérature, par le travail, parce que là, en fait, après, on parle de mots, on parle de phrases, oui. On parle de rythme, j'ai réussi à rendre quelque chose qui a été, une expérience à nul autre pareil. Quand vous dites « tout est possible », il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup, depuis le début de cet entretien, d'un... avec beaucoup de sourires, avec beaucoup de lumière, d'un émerveillement. Mais ce tout est possible, il est
inconnu.
Il est inconnu, et du coup, il est aussi, pour moi en tout cas, très proche de la peur, très proche de la peur de la mort, très proche de l'inconnu total, donc de la non-maîtrise. Et donc, dans ce tout est possible, il faut réussir à ouvrir quelque chose en soi, pas seulement pour le passage du bébé, mais aussi pour faire de la place à quelque chose qui ne répond pas à la volonté, à quelque chose qu'on ne maîtrisera pas, à quelque chose qui peut-être sera triste ou grave, à quelque chose qui peut-être ou certainement ne sera pas du tout ce que nous avons prévu. Je crois que c'est aussi un apprentissage incroyable de ça, quoi. Et comme les enfants venant au monde ensuite ne font que ça, que déranger ce qu'on a prévu, que n'être pas là où nous voudrions qu'il soit, qu'être autre chose que notre imagination aurait pu façonner pour eux, c'est une bonne préparation.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi, parce qu'effectivement, tout est assez ambivalent, il y a aussi l'ambivalence du désir.
Absolument.
Et je crois que c'est un des éléments importants aussi de ce récit.
Absolument. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans ces 7 jours qui s'ouvrent après la date du terme, il n'y a plus le choix. Il faut délaisser le volontaire pour faire place au désir. Et le désir, c'est plus compliqué que ça, comme on dit. Et en tout cas, moi, j'ai voulu laisser place dans ce texte à ce que je découvrais de l'ambivalence de ce désir. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, est-ce qu'on décide vraiment d'avoir un enfant? Et qu'est-ce qu'on décide quand on dit qu'on décide d'avoir un enfant?
Est-ce que c'est une décision définitive?
Oui, c'est moins ferme que ça, je crois. Et moi, en tout cas, pour ces deux grossesses, j'ai fait l'expérience de la peur d'avoir cet enfant, de la me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie en moi qui ne veut pas cet enfant?
Bien sûr.
Peut-être que le monde duquel je m'apprête à être tout à fait définitivement délogée, ne vais-je pas le regretter? L'identité de laquelle je m'apprête à être radicalement délogée, ne vais-je pas la regretter? Il y a autant de petites séparations et de petites morts dans tout ça que d'avènements, de naissances, de renaissances, etc. Mais vraiment, ça avance sur les deux pieds. Ce sont des choses qui se disent beaucoup plus facilement aujourd'hui. Mais il me semble que c'est important de le dire, quoi. Voilà, peut-être il y a des femmes dont l'expérience est totalement lumineuse et pour lesquelles ni la peur... ni l'hésitation ne trouve leur place. Ce ne fut pas mon cas.
Alors, il y a un autre point qui aussi va à l'encontre, peut-être, de ce qu'on lit le plus couramment. Vous évoquiez, Marie Richeux, le fait qu'on ne sait rien de nos origines et de ce blanc initial. Il y a également le fait qu'on ne sait rien de cet enfant et que parler à votre enfant... Quand on ne l'a pas vu, quand on ne sait pas qui c'est, ben c'est pas aussi évident qu'on pourrait le croire.
Alors bien sûr, ça c'est encore pareil, ça dépend des personnes, et j'imagine qu'il y a autant d'expériences, mais moi en tout cas, je me suis rendu compte que quand on me disait « mais adresse-toi à ton bébé », pendant les deux grossesses, « adresse-toi à ton bébé », j'essayais, parce que je suis quelqu'un qui parle, et ça marchait pas. C'est-à-dire que il y avait quelque chose de faux, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. J'avais l'impression de trahir, que ça marche pas. Par contre, je parvenais tout à fait à m'adresser à mon bébé sans parler. Et il n'y a pas très longtemps, quelques semaines après avoir vu paraître jour de naissance, donc des mois après l'avoir écrit, cette phrase-là, où je ne me sentais pas très fière d'écrire ça, il y avait quelque chose où j'avais l'impression de ne pas réussir, justement. Eh bien, il y a un podcast qui s'appelle In Utero, qui est diffusé par France Inter, et qui fait une étude neurologique pour dire que la plus grande communication, la communication la plus efficace, la plus sensible, la plus notable...
Et non verbale.
C'est dingo, non?
Ouais,
ça
m'a
tellement stupéfaite, je me suis dit, bon, ok, ça va alors.
Au bord du fleuve tranquille qui coule vers l'océan, ces archipels, ces îles, ces horizons changeants, il y avait deux amants. Le soir, sur la rive paisible du grand fleuve lent, serrés contre le vent, riant comme deux enfants, ils s'aimaient follement. Comme je t'aime, comme je t'aime, comme je t'aime, tu es mon plaisir. Et moi je t'aime, tu es mon désir. Ô grand fleuve tranquille, coule vers l'océan, ses archipels, ses îles, ses horizons changeants, nul vent au couchant. J'aime tes eaux impassibles, ton cours calme et lent, tes rives invisibles, tant les seaux le penchent, ployés par le courant. Est-ce que tu m'aimes, ô mon amant? Si moi je t'aime, pas pour longtemps. Et sur le fleuve tranquille, il s'est embarqué, là-bas vers l'océan, ses archipels, ses îles, s'en est allé son amant. Au bord du grand fleuve tranquille,
qui coule vers l'océan, ses archipels, ses îles, ses horizons changeants, ses horizons changeants ne sont plus les amants. Pourquoi les mèges, pourquoi les mèges, pourquoi les mèges passionnément? Pourquoi je l'aime, pourquoi je l'aime, pourquoi je l'aime encore autant? Le soir, sur la rive paisible du grand fleuve lent, le long du courant, elle songe à son amant, elle songe à son amant qu'elle attend. Pendant que le beau fleuve lent suit son cours paisible et indifférent, toujours vers l'océan, toujours vers l'océan, en oubli des amants. Pourquoi je l'aime, pourquoi je l'aime, pourquoi je l'aime encore autant? Pourquoi les mèges, pourquoi les mèges, pourquoi les mèges passionnément? Le soir, sur la rive paisible du grand fleuve lent, songeant à son amant, elle entre dans le courant, elle entre dans le courant et s'en va se noyant. Maintenant, sur le cours paisible du grand fleuve lent, jouent de grands oiseaux, de grands cygnes blancs, de grands cygnes libres, en souvenir des amants, en souvenir des amants.
Marie Richeux, jour de naissance chez Sabine Vespizer, met en évidence aussi l'importance des appuis qu'on peut avoir. Et parmi ces appuis, y a des gris-gris. Et qui n'a pas eu de gris-gris et comment s'est fait le choix des gris-gris? Je crois que c'est aussi intéressant.
Oui, il y a des gris-gris qu'on me met dans la poche, il y a des gris-gris que je me choisis, j'écris... que le 9e mois, on choisit ce qui se tient sur son passage. À la fois, c'est une formule et en même temps, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose, justement, dans le désir qui s'affine. Il y a des choses qui deviennent un peu impérieuses. Il y a des choses dont on est plus capable de dire ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut pas. Et j'ai un petit rapport comme ça à la superstition. J'en joue un peu dans ce texte-là et dans les autres textes, aux signes, à la lecture du réel, comme ça, un peu... parfois, oui, un peu avec Alice, quoi,
oui.
Et les merveilles. Et c'est vrai que je me suis sentie protégée par des cailloux que ma première fille me mettait dans les poches, par un ballon qu'une très chère amie à moi m'avait donné et que j'ai serré comme ça pendant tout l'accouchement, par les arbres du bois de Vincennes, par toutes sortes de choses dont je me disais que c'était des bons signes sur mon chemin.
Oui, ce qui est assez frappant, c'est le caractère d'évidence que peuvent avoir justement ces différents gris-gris. C'est, la question ne se pose pas.
Oui.
Il n'y a pas de réflexion sur le choix. C'est une évidence.
Oui, c'est une évidence. Et puis je la polie, puisqu'on parle, on parle de cailloux. Je la polie aussi avec le texte. Et que pour la première fois, vraiment, c'est un récit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un arrangement du réel dedans. Et qu'évidemment,
c'est le travail de l'écrivain.
Voilà. Et évidemment, il y a quelque chose que petit à petit, dans l'écriture, j'ai vu poindre des lignes. Et une fois que je les ai vues poindre, je me suis bien amusée à les suivre. Mmh. Donc j'ai aussi poussé le curseur de certaines choses, amoindri le curseur d'autres pour que... le livre trouve sa petite musique et le bois m'a beaucoup aidée. C'est pour ça que la citation de Pascal Quignard, cette fameuse prairie et les arbres comme ça qui ne font pas trop avancer leurs racines pour qu'on puisse jouer, et pas jouer pour gagner, mais jouer pour errer, est une façon de dire que ce texte-là, plus ça a été, plus je l'ai envisagé comme une errance ou une danse dans une prairie.
Oui, il y a beaucoup de mouvements d'ailleurs.
Ouais. Et de fêtes, okay. et de tournoiements, et d'ivresse, j'en ai été assez stupéfaite d'ailleurs.
Oui, oui, jusqu'au verre de vin final.
Exactement.
Mais on n'en dira pas plus. On va pas dévoiler
c'est
le
vrai,
livre.
Vous avez raison.
Ça s'appelle Jour de naissance, c'est de Marie Richeux, c'est par vos éditions Sabine Vespizère. Alors, question rituelle dans cette émission, Marie Richeux, vous travaillez déjà sur un prochain livre, il y a des idées, il y a des.
Écoutez, des j'adorerais vous dire oui, il y a un chantier génial, mais je me méfie, on va dire que j'ai posé deux, trois choses sur le papier il y a quelques mois, mais que. Je ne voudrais pas lui porter malchance, hein, mais que j'ai remarqué que ce qui semblait prendre forme entre deux livres fichait le camp avant qu'un vrai nouveau projet de livre ne s'impose.
D'accord.
Donc bon, voilà. Écoutez, on va voir.
On est dans l'entre-deux.
Voilà, exactement. On est vraiment dans l'entre-deux. Ouais.
C'est comme les 7 jours.
Tout à fait. Mais dedans, mais peut-être ça va durer 10 ans.
En tout cas, je vous remercie, Marie Richeux, de cet entretien.
C'est une lecture incroyable.
C'est Jour de naissance, c'est paru chez Sabine Vespizère. C'est un court texte, mais où il y a énormément de choses. Merci.
Merci à vous.
Tant de plaisirs nous ont surpris, éperdument nous ont unis.
Si bien que moi, je ne sais plus
si je suis moi,
si je suis lui,
si je suis toi,
laquelle je suis.
Plus que d'amour, c'est une passion
dont on n'atteint jamais le fond,
qui nous fondit en tel frisson. Étais-je moi,
étais-je lui, était-il moi,
lesquels étions. Grand plaisir font la vie belle. Tant de plaisir éclaire la nuit. Que ce soit moi, que ce soit lui, que ce soit nous ensemble unis.
Pour lui suis-je elle, lui pour moi lui. Étais-je donc celle, était-il lui. Quand cet amour nous confondit. Toi qui m'as prise,
étant tes prises,
suis-je bien celle.
Suis-je bien moi?
Était-ce bien lui?
Était-ce bien moi?
Ce grand frisson qui nous parcourt,
frisson de passion et d'amour.
Chaque fois que je suis dans tes bras, je ne sais plus
si je suis toi, je ne sais plus
si tu es moi.
Tu me serres contre toi, ça me bouleverse d'une telle joie. Quand tu me berces, suis-je encore moi? Suis-je bien à toi? Es-tu à moi? Est-ce bien nous qui sommes à nous?
Tant de plaisirs nous ont surpris,
éperdument nous ont unis.
Si bien que moi, je ne sais plus si je suis moi, si je suis lui, si je suis toi, lequel je suis.
Toujours Radio Libertaire, c'est la fin de cette émission Idéaux et Débats qui était, ma foi, fort copieuse et fort riche. J'espère que cette émission vous aura plu. Vous aurez pu remarquer la programmation musicale de l'entretien avec Marie Richeux, qui était constituée de morceaux issus du disque consacré à Serge Rezvani, donc une compilation produite par la fille de Jacques Canetti, avec des reprises de ces très très belles chansons de Serge Rezvani, par Dominique A, par Kali. Enfin, c'est un très beau disque que je vous invite à découvrir. Et puisqu'on parle de chansons, on va terminer en musique avec un morceau qui s'intitule « Toute la nuit », qui est de Sainte Victoire. C'est un single, on attend l'album avec impatience, parce que c'est l'été, parce que ça fait du bien. Et ben, je vous propose de découvrir ce morceau de Sainte Victoire, que vous pourrez retrouver sur YouTube ou sur Instagram sans difficulté. Allez, on y va, on se fait plaisir.
C'est simple, on court, on rit, on pédale, on roule, on vit ravi. On démarre une nuit sans peur du jour, on pédale, on crie. On jouit et prie, on s'enjaille sur des morceaux pourris. On lâche le guidon, descend dangereuse. Et je te regarde l'air amoureuse, seule sur la plage. On écarte les mains vers les étoiles, on danse en bois. Il n'y a que toi que mes yeux voient. Attrape le ciel, dis-moi. Rappelle-toi que tu m'avais promis qu'on pédalerait toute la nuit, toute la nuit. C'est beau, on est là.
cette parole de prophète. Je la revendique et vous souhaite, ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.